Donnez-nous votre avis sur Beta Série La Radio et ses podcasts. Participez à notre sondage sur radio.betaserie.com.
Thank you, my babies.
Tu vois qui c'est ? Présenté par Damien Douani sur Beta Série La Radio.
Bienvenue dans cet épisode 4 de Tu vois qui c'est, l'émission des voix mythiques de séries et de films. Je suis Damien Douani et aujourd'hui j'accueille à distance, bien sûr, hein, confinement oblige, un comédien de doublage multivoix au CV très impressionnant, fan de jeux vidéo, d'e-sport et de courses automobiles entre autres. Il est notamment la voix attitrée d'acteurs comme Jesse Eisenberg dans Zombieland, The Social Network, dans Insaisissable, de Adam Brody dans Shazam, de Paul Dano, de Jonah Hill ou encore d'Andrew Garfield. À la télévision, il a travaillé sur des séries comme Urgence, Skins, Weeds, Malcolm, c'est lui Riz, et plus récemment Viking ou Riverdale. Il est bien sûr aussi Titeuf, Spider-Man et même Christophe dans La Reine des Neiges, c'est vous dire quand j'ai dit ça à ma fille. Bienvenue à ce cascadeur du doublage, bonjour Donald Orenio.
Salut, ça va? On aurait pu. J'aime bien cette intro, elle aurait pu être plus longue encore, mais c'est vrai que ça fait plaisir, hein, c'est cool.
j'aurais pu durer encore un petit moment quand on voit quand c'est même votre palmarès, hein, votre Hall of Fame, tout ce qu'on peut voir. Il suffit d'ouvrir votre page Wikipédia pour s'en convaincre. Mais on va en parler justement pendant toute cette émission. Et justement, dans cette première partie, on va parler du métier de comédien de doublage télé. Alors justement, déjà, j'ai eu de la chance parce que confinement oblige, comme vous êtes hyper actif, j'ai réussi à vous attraper.
C'est ça.
Pour autant, quand on regarde votre compte Twitter, on se rend compte quand même que vous faites plein de choses. Ouais. Et notamment, actuellement, vous faites beaucoup de jeux vidéo.
Ouais. En tout cas, pour y jouer, ça, c'est sûr. Mais les jeux vidéo sont devenus c'est vraiment devenu à part entière mon métier aussi en compagnie du doublage. Et ça, c'est bien parce que j'ai toujours été passionné de jeux vidéo. Mais aujourd'hui, je peux aussi dire que le jeu vidéo, c'est mon métier. Alors, c'est très pratique, hein, quand on a une compagne qui n'aime pas les jeux. Maintenant, je peux dire, chérie, c'est pour le taf.
Ah, c'est effectivement très pratique. Je la retiens, celle-là, ça pourrait me rendre service. Alors, on va en parler des jeux vidéo en troisième partie de cette émission. Mais dans un premier temps, on va faire un retour en arrière, un retour dans le temps. Et on va revenir à l'âge de 10 ans. Car il me semble bien, Donald, que c'est à cet âge-là que vous avez commencé le doublage, ou tout au moins les ouais. activités autour du doublage, grâce notamment à une personne qui s'appelait Claude Lombard. C'est bien ça?
C'est ça. C'est ça, en fait. Ma mère, elle était choriste, donc c'est vraiment accompagner les chanteurs pour faire les chœurs derrière, donc d'artistes comme Sardou ou même Joe Dassin. Et elle a toujours baigné là-dedans dans les années, il y a un moment maintenant, mais dans les grandes époques de la variété française, donc dans les années 60, 70, 80 même. Et là-dedans, elle a rencontré donc Claude Lombard et elles ont chanté ensemble pour faire des chœurs. Claude s'est plutôt tourné par la force des choses vers les génériques de dessins animés. Mmh. Et en fait, c'est comme ça que je l'ai rencontré, c'est que elle cherchait à faire des génériques de dessins animés avec des enfants. Ma mère refusait absolument de me pistonner, hein, pour que j'y aille. Et j'ai tellement été insistant parce que je voyais qu'elle prenait tous les gens autour de moi, sauf moi. Parce qu'elle voulait vraiment pas me pistonner.
Ouais.
Et puis à force d'insister, je l'ai fait une fois, puis ça m'a amusé. Mais finalement, le chant, ça m'a amusé pas plus que ça. Mais un jour, elle a entendu parler du début des doublages, vraiment avec les chansons. Et elle a connu un directeur artistique qui m'a fait essayer une première fois. Pour être honnête, j'ai pas trouvé ça ouf. Mais bon, c'était pas non plus déplaisant. Donc j'ai continué comme ça. Puis le bouche à oreille. C'est fait. Alors c'est sûr que du coup j'ai eu un coup de pouce à la base, mais après il faut l'entretenir, cette chance, et puis voilà.
J'imagine que vous ne vous souvenez pas forcément de votre première séance.
Si, mais je ne sais plus comment ça s'appelait. Alors quand j'ai fait mes streams vertes, justement, j'ai des vrais puristes qui connaissent encore plus ce que j'ai fait que moi, qui m'ont sorti carrément le nom de la série. Et ce que c'était, je crois que c'était un téléfilm d'ailleurs, mais je l'ai encore pas retenu. Comme d'habitude, je n'ai pas de mémoire. C'est triste quand même pour un comédien.
Franchement, à l'époque, est-ce que vous pensiez que ça allait devenir votre métier par la suite ?
Non. Non, non, c'était vraiment très, très anecdotique. C'était tous les trois mois, tous les quatre mois, il n'y avait rien de. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les petits, à partir du moment où ils savent parler juste et qu'ils ont envie de bosser, ils sont appelés tout le temps avec Netflix et Amazon où il y a vraiment énormément de taf. C'était pas le cas à l'époque, même si les productions demandaient vraiment des enfants et plus des adultes. C'est quelque chose qui a tout changé. Mais il y avait quand même moins de taf, donc je savais pas que j'allais en faire un métier. Ce qui est sûr, c'est que quand j'ai fait Toy Story, j'imagine qu'on va en parler après, mais c'est vraiment ça qui m'a lancé. Et puis après ça, c'est monté crescendo. Et à mes 16 ans, j'avais trop de travail pour continuer à faire et le lycée et travailler en studio. Et donc j'ai décidé d'arrêter parce que je voyais que j'allais pouvoir en vivre, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, parce que c'est pas forcément évident. Mais ouais, voilà, c'est monté petit à petit, donc j'ai eu le temps d'analyser la situation. Ça m'est pas tombé dessus d'un coup, quoi. On est loin des trucs de télé-réalité où ça fait on-off. Là, c'était.
Oui, il y a eu du travail, pour faire simple. Voilà, comme c'est ça. La majorité des gens. Justement, Toy Story, oui, on en parle immédiatement. Toy Story, c'était il y a 24 ans. D'ailleurs, vous avez posté un tweet il y a quelques temps en disant bah, tiens, c'était, voilà, il y a 24 ans. Et ben, vous aviez quel âge à cette époque-là?
J'avais 13 ans.
J'avais 13 ans.
Ouais. C'était fou.
Et vous êtes Andy.
Ouais, ouais, et puis c'était même plus que ça, c'est que j'ai pas été pris d'office, hein. J'ai passé le casting et je me rappellerai très bien. C'est bizarrement un des. Non, pas bizarrement d'ailleurs, c'est ce casting-là, il est resté gravé dans ma mémoire tellement j'ai pris une claque quand je suis arrivé dans le studio. Ah, oui. Bah, parce que on passait des dessins animés à de la 3D. On se rappelle tous de la claque qu'on a pris quand on a vu notre premier Pixar. Bah, c'était Toy Story, mais il faut l'imaginer quand on est en studio et que c'est quasiment de l'avant-première. Et que tout n'était pas terminé. Il y avait beaucoup de dessins en storyboard, mais les images qui étaient terminées, c'était de la 3D comme on n'en avait jamais vu. Moi, je sortais de ma PlayStation première. Hein.
Vous étiez déjà fan de jeux, donc j'imagine que de voir la 3D en film, on se dit waouh, ah ouais, là on est sur autre chose.
C'est comme si on me montrait la PS3 alors que je venais de sortir de la PS1 où je venais de finir de jouer à Sonic. C'est bon, j'ai fait ma blague.
C'est Halo versus Sonic. Voilà, on passe d'un seul coup dans un autre monde.
Ah ouais, c'était incroyable.
Et donc là, vous êtes casté pour faire la fameuse voix de Andy, donc l'ami, ouais, bien sûr. Et donc ça, ça va être vraiment, je pense, ça va être votre bascule par rapport au métier. Vous allez vous dire, ça y est, là maintenant, c'est parti.
Non, moi non. Parce que moi, finalement, une fois que j'ai fait mon truc et qui a duré une demi-journée, parce que ça va très vite, hein, je me suis pas dit, ah, ça y est, je suis parti. Non, c'est le taf qui est venu après, par la force des choses, qui a fait changer la situation et que, voilà.
Est-ce que ce rôle, puisqu'on parle de comédien de doublage, hein, parce que vous êtes comédien à la base, est-ce que ce rôle, ça vous a donné une visibilité justement dans le monde du doublage sur d'autres choses?
Bah ouais, ça a été un passeport, hein, forcément. C'est moi qui ouvre le film, tout de suite on m'a dans les oreilles dans la seconde. Mmh. C'est Jean-Philippe Puymartin et Richard Darbois, les stars du film, mais en l'occurrence c'est Andy qui ouvre le film, donc forcément ça marque. Comme c'est un film qui marque de base, bah, faire l'intro pendant 2 minutes solo, à faire toutes les voix des jouets, ça a été un vrai passeport, hein, ça c'est évident. Ça se quantifie pas, mais bon.
Oui, mais ça ne se quantifie pas, mais c'est un vrai, ça marque dans tous les cas de figure, ouais, auditivement parlant. Pourquoi ne pas avoir fait les voix de Andy dans les autres Toy Story?
Alors, le 2, j'ai une explication. Le 3, j'ai pas compris. Le 2, j'avais mué et le rôle n'avait pas mué en anglais. Donc, c'est paraissait totalement logique de ne pas me prendre, même si on aurait pu, hein, évidemment. Mais ils ont voulu prendre la liberté, enfin, faire le choix de pas me reprendre et de reprendre un autre petit garçon qui n'avait pas mué. Mais il a très bien fait le taf. Alors, c'est sûr que ça m'a vraiment ennuyé, hein, parce que j'avais déjà un petit lien avec ce personnage. Ouais. Et sur le 3, je crois qu'ils l'ont repris le même comédien, mais bon, clairement, là, on avait mué tous les deux. Il avait la continuité, mais finalement, est-ce que je l'avais pas moi aussi la possibilité de le faire parce que j'avais fait le 1, lui avait fait le 2. Bon, la logique fait qu'il a fait le 2 et le 3. Mmh. Mais j'aurais pu. Par contre, la petite, je vais pas dire revanche parce que le mot est fort, mais c'est d'avoir pu faire Andy tiré de Toy Story 3 dans tous les spectacles Disney sur glace. Mmh. Et ça, c'était très agréable de pouvoir dire au revoir moi aussi à mon personnage de cette manière.
Alors, dire au revoir à ce personnage et dire bonjour à un autre personnage, puisqu'il y a une voix dans le dessin animé qui va véritablement, on va dire, vous faire exploser, autrement dit, qui va véritablement vous mettre énormément en avant, bah, c'est Titeuf, bien sûr.
Ouais.
Titeuf en 2001. Alors justement, y a des, on a posé bien sûr des questions aux membres de la communauté Beta Série qui ont des questions pour vous. Et justement, il y en a une de Osleyan qui nous dit « Comment avez-vous eu la chance d'obtenir le rôle pour doubler Titeuf ?» Tout simplement.
Casting, hein, comme Toy Story. Mm-hmm. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, j'ai peut-être plus de choses, entre guillemets, d'office. Et encore, je passe encore des castings pour beaucoup de choses, même pour des acteurs que j'ai déjà doublés. Donc, on n'en a même pas exemple, hein, ça c'est sûr. Mais Titeuf, casting, hein, j'ai été appelé pour ce truc-là. Et c'est sûr que il était spécial, ce casting. C'est la première fois de ma vie que je voyais ça, mais ça n'arrive jamais. C'est la seule fois de ma vie que ça arrive. Comme quoi, j'ai des souvenirs de Toy Story, de Titeuf et moins des autres. Mais ouais. Celui-là, il m'avait choqué parce que il y avait 30 personnes sur le studio. Il faut imaginer un studio de cinéma comme on voit dans les making-of qui sont immenses. Mm-hmm. Normalement, quand on fait son casting, on est tout seul, on fait son truc 5 minutes et on se casse. Et puis voilà, un quart d'heure. Mais là, ils avaient genre pris la demi-journée et la journée pour avoir tout le monde sur le plateau. Ils les faisaient passer à la queue leu-leu. Je crois que c'était une volonté du DA et pas de la prod, mais c'était complètement aberrant parce que les comédiens ils s'écoutaient les uns les autres, donc ils se repompaient les idées les unes derrière les autres.
C'est terrible pour des
comédiens. Horrible. Ils étaient tous assis en tailleur, assis par terre, tellement il n'y avait plus de place sur les canapés. Enfin, c'était un délire. Et puis je suis arrivé là-dedans et puis j'ai vu la galère. Et je suis allé voir le DA, j'ai fait par contre je suis pressé, je pourrais pas rester longtemps, et donc du coup j'ai grillé la politesse aux autres et je suis
moi,
passé
au micro. Moi faut finir ce jeu vidéo là, donc si tu veux, si tu peux me laisser finir.
Ouais, c'était un peu ça et du coup j'ai fait l'essai. Moi j'avais cette voix en tête tout de suite qui m'est venue. Mmh. Et j'avais pas envie de faire autre chose. Et du coup, ça les a fait tilter. Zef n'était pas là sur le plateau. Il y avait le DA et puis une responsable de la prod, je crois, de la série. Donc, pas des ayants droit de Glenna.
Par contre, est-ce que Zep ensuite a contribué au choix de la voix ou pas du tout?
C'est resté uniquement... Ouais, carrément. D'accord. Carrément. Justement, c'est pour ça que quand j'ai passé le casting, donc du coup, je suis passé devant tout le monde et je suis resté au micro genre une demi-heure alors que les autres passaient de scène en scène. Parce que ce que j'avais proposé, c'était complètement à l'opposé de ce que les autres ont pu sortir. Parce que moi, j'étais à contre-courant avec la voix un petit peu, avec le gros grain que je pouvais mettre. Mmh. Et du coup, ça les a étonnés. Ils ont voulu creuser un peu plus. Mmh. Et du coup, je suis parti après en laissant les autres. c'était drôle. Mais du coup, ouais, Zep, il a écouté. De ce que je sais, c'est que de tout ce groupe qui a écouté les essais, au début, ça les a intéressés. Puis après, ils se sont dit que j'allais peut-être un peu loin dans le côté un peu ce côté spécial, la voix qu'ils n'avaient pas forcément en tête, parce que souvent, quand il y a des personnages qu'on crée, qu'on dessine, avec lesquels on a un lien pendant des années, de l'entendre parler d'un seul coup avec une voix, c'est comme s'il y avait un truc qui n'allait pas. De toute façon, aucune voix n'irait, parce que de toute façon, c'est jamais celle qu'on a en tête. Donc là, j'allais tellement loin que ça n'allait pas forcément kiffer au début. Et puis finalement, ils se sont dit, ouais, finalement, ça peut être pas mal. Et on était plus que deux avec une autre comédienne. Et puis voilà, elle, c'était une voix très, très ronde. D'ailleurs, c'était elle qui faisait la maîtresse au début, qui devait faire Titeuf, je crois bien. Et voilà, et du coup, je suis passé dessus, mais c'était elle ou moi. Mais moi, j'ai pas bougé de ma position. Je voulais vraiment proposer ce truc-là. Puis finalement, ça a plu. Tout le monde s'est dit, ouais, c'est original et c'est ce qu'il faut pour Titeuf. Et je crois que c'est ce qui a marqué le coup, c'est ce côté voix originale.
Justement, Donald, on va faire un truc, on va écouter les différences entre le premier épisode et l'épisode le plus récent. On va écouter tout de suite le premier épisode qui s'appelle « Aux frontières du réel ».
Et là, dans le film, tout se met à méga trembler dans tous les sens. Ça bouge de partout à la fois. Et d'un seul coup, t'as une énorme soucoupe volante qui doit peser au moins 1 million de gigatonnes qui arrive au-dessus de la cour de récré où il y a tous les enfants.
Oh, mais ils vont tous se faire écrabouiller.
Oui, non. Il y a un super aspirateur télescopique qui sort du gigaventre de la soucoupe. C'est pas une blague, Manu. Tu m'écoutes ou quoi? Donc il aspire tous les enfants et les ramène à crépus.
Voilà, ça c'était le premier épisode. Petite Petit clin d'œil d'ailleurs à Georges Caudron qu'on a reçu le mois dernier, qui est Fox Mulder, la voix française de Fox Mulder. C'est amusant parce que l'épisode s'appelle Aux frontières du réel. Et ce qui est très amusant, c'est que moi, on va le comparer avec un épisode que vous avez mis récemment en ligne sur Twitter qui s'appelle Corona Minus. On va écouter ça tout de suite.
Chez moi, c'est pareil. On préfère partir chez mamie que rester dans l'appart.
Moi aussi, mon père, il a dit qu'il préférait ça que se taper motus tous les jours.
C'est sûr, il nous cache la vérité. C'est pour pas nous faire peur.
Toi, ils nous prennent pour des décérébrés de schlep. En plus, c'est Animal Crossing qui va sortir. D'ailleurs, le livreur va me l'apporter en avance.
Mais c'est pour ce soir.
Oh, au revoir, mon école. Bien sûr, je veux faire mes devoirs à distance et pas penser Fortnite et Netflix.
Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 15 ans, entre ces deux... non, plus que 15, 19 ans, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Il y a quand même la voie à évoluer.
Bah, la vie, hein, tout simplement. Je crois que j'avais 19 ans, j'en ai 37, voilà, c'est tout.
Puis l'intention, peut-être aussi, il y a une envie de faire évoluer le personnage?
Non, c'est qu'on le trouve au fur et à mesure. Hein. J'ai le même truc avec Harold pour Dragon, j'ai la même chose avec Titeuf. Chez tous les personnages avec lesquels on bosse des années, des épisodes et des épisodes, des films, on le trouve et on ne fait plus qu'un avec. Donc forcément, la voix, elle évolue. Hein. Vraiment, c'est la même chose. Si on écoute South Park, c'est pareil. Le premier épisode, maintenant, ça n'a rien à voir. Les Simpsons, c'est encore plus flagrant.
Ah, les Simpsons, c'est flagrant, oui, clairement.
Ah ouais, mais c'est ça, en fait. On le trouve et on l'affine. Et c'est pour ça que quand on en fait vraiment beaucoup d'années, à la fin, on ne réfléchit plus. Le personnage, on l'a. On peut repartir dans la seconde, alors que si on part de zéro, c'est beaucoup plus difficile. Donc, ouais, moi, déjà, j'avais 19 ans. Et puis maintenant, surtout, le lien s'est fait, quoi, tout simplement.
Alors, quand on regarde votre voxographie, on voit qu'il y a énormément de personnages de dessins animés. Il y a Harold, hein, ça vous l'avez dit, dans Dragon. Il y a Christophe dans La Reine des Neiges. Il y a aussi le personnage de Loulou, un des neveux de Donald. Ah, ça, il fallait la faire, celle-là, dans la bande à Pixo. Martin Mystère, Robocar Poli. Est-ce que ça change de faire de l'animation, enfin plutôt du doublage de films animés versus des séries ou des films? C'est différent?
Ouais, bah, il y a plus de liberté sur les dessins animés. Disons qu'on peut faire ce qu'on veut. Moi, j'ai tendance à dire que sur un doublage de dessin animé, la VO, c'est une base, mais je l'écoute pas forcément parce que on fait le même métier. Sauf que nous, en plus, lui, il le fait en VO, il le fait à la feuille, et les animateurs font les dessins. Donc lui ne peut pas apporter sa touche par rapport au dessin. Alors que moi, le dessin, il est fait par rapport aux animateurs. Si dans les DreamWorks, Harold, il fronce un sourcil, Jay Baruchel, il l'aura pas fait, lui, forcément. Alors, c'est l'image qui va rapporter ça en plus par rapport à son intention de jeu, mais moi, je peux émettre l'intention de jeu et en plus coller avec l'image. Donc, du coup, je peux apporter quelque chose de complémentaire qu'a pas pu avoir la VO. Je dis pas que c'est mieux, je dis juste que, la VO, pour moi, elle est, c'est moins une base de travail, alors que sur un film, on est obligé de la suivre parce que, on colle à l'image et à ce qu'a fait le mec. Forcément, tout est en relation quand c'est filmé. Alors que sur un dessin animé, bah, finalement, on a fait le même métier, sauf que nous, on a encore quelque chose de plus pour s'accrocher, pour être encore plus précis dans l'interprétation. Donc, la différence, elle est énorme.
Alors, Donald, vous aimez faire des choses qui sont mythiques. Après Titeuf, en télévision, il y a un autre personnage d'une série mythique, donc, qui est devenu culte, c'est Riz dans Malcolm.
Ah ouais.
On écoute tout de suite un extrait.
Dis donc, toi, répète ce que je viens de dire.
J'ai rien écouté. Je crois que j'ai tout compris. Vous êtes bouclé ici. Vous resterez en prison toute votre vie. Pourquoi je devrais avoir peur de vous?
Alors, Vincent, c'est tort le mot.
Parce que, vu la façon dont tu te conduis, toi aussi, un jour, tu finiras ici. Et ce jour-là, crois-moi, oh ouais.
Excusez-moi, à votre place, je me ferais envoyer discrètement un truc pour la laine.
Alors ça, c'était en 2001, vous aviez 16 ans. Est-ce que vous pourriez aujourd'hui jouer encore ce type de rôle d'ado si ça se représentait?
Le rôle...
Ouais, de Riz.
L'état d'esprit, oui. Non, je veux dire, l'état d'esprit, oui. Mm-hmm. Évidemment que maintenant, ce serait en relation avec mon âge. D'ailleurs, j'ai foiré un casting pour une série qui a l'air exceptionnelle, complètement ravagé aussi juste avant le confinement, et j'étais vraiment déçu parce que je sentais que je pouvais vraiment m'éclater et je l'ai pas eu, mais ouais.
Pourquoi
on m'en confie
fait
encore? Je sais pas, le client a décidé que j'étais pas la meilleure personne.
D'accord.
Je pense que de plus en plus les clients cherchent un match voice, vraiment avoir la voix qui correspond le plus à la VO et pas chercher à avoir la personne qui va se rapprocher le plus de l'humeur. Enfin, souvent ils essaient de mettre le curseur entre les deux, mais on penche plutôt vers le côté de la voix avant l'humeur, le jeu, tous ces trucs-là. Je dis pas que c'était mieux ce que j'ai fait, hein, pas du tout, mais disons que pour jouer les rôles de ridicule où faut vraiment en faire des caisses, c'est ce que je préfère faire le plus, donc forcément j'étais un peu déçu, mais c'est sûr que l'autre personne collait plus vocalement, donc je pense que c'est ce qui m'a joué les tours. Mais ouais, si Justin Berfield, donc qui interprète Riz, reprenait du service, je pense qu'on repartirait instantanément, vu que j'ai son mode d'emploi pour le doubler, il n'y a pas de souci.
Voilà, d'ailleurs, c'était une question d'un des membres de Beta Série, Pew34, qui me demandait si Malcolm devait revenir pour un film ou une série, est-ce que tu reprendrais la voix de Reese ? Donc la réponse, elle est oui, a priori. Ce que j'entends sur les directeurs artistiques, le match voice, donc le fait que de retrouver des voix qui soient assez proches de la réalité initiale, en fait, de la VO, c'est quoi ? C'est une non-prise de risque ? Qu'est-ce qui est derrière cette démarche ? Parce que vous avez fait, en plus, vous, de la direction artistique, en plus, donc...
Souvent, c'est le client qui a le dernier mot. Hein. C'est pas tellement le DA. Mmh. Alors souvent, oui, évidemment, on essaye d'avoir des personnes qui collent le plus à la voix et de pas être complètement à côté de la plaque. Mais bon, les plus belles rencontres du doublage, elles se sont faites alors que les voix n'ont rien à voir. Hein. Il y a qu'à voir Patrick Poivet et Bruce Willis.
Exactement.
Faites VO, faites VF, il y a un sacré monde entre les deux. Hein. Et pourtant, c'est le match voice dans les oreilles de tout le monde qui marche le mieux. Mmh. Donc c'est une preuve que souvent c'est plutôt l'humeur de ce qu'on apporte qui fait que ça colle au doublage ou pas. Je sais pas, en fait c'est propre à chacun, chaque DA, chaque client, chacun pense un peu à sa manière. Certains sont des inconditionnels d'avoir la voix qui ressemble le plus, d'autres plus l'humeur, et parce qu'ils connaissent peut-être un peu plus le métier. Il y a beaucoup de je vais pas dire d'affect, mais de c'est pas, en fait souvent les choix sont pas hyper objectifs, enfin chacun place le curseur où il veut, du coup ça donne des choix qui sont tous différents les uns des autres. Il y a qu'à voir dans les films, on a parfois des stars qui sont doublées, ils ont jamais la même voix parce que soit le DA s'entend pas avec le comédien choisi, soit c'est le client qui veut pas entendre telle place à la place d'un tel, donc c'est jamais le même schéma, quoi.
Ben vous avez de la chance de pouvoir suivre pas mal d'acteurs au fil de l'eau. On va en parler dans quelques instants de la deuxième partie de cette émission.
Tu vois qui c'est ? Présenté par Damien Douani sur Beta Série La Radio.
Deuxième partie de cet épisode de Tu vois qui c'est sur Beta Série La Radio avec Donald Regnault. Alors Donald, dans cette première partie, on a parlé beaucoup de dessins animés, de télé. Là, on va parler un peu plus cinéma puisque vous avez doublé. Vous avez votre voix qui est associée à de très nombreux acteurs. Alors, je vous en donne quelques-uns. Jesse Eisenberg pour Zombieland, Social Network, Insaisissable, entre autres. Adam Brody, Paul Dano, Jonah Hill, Andrew Garfield, Joseph Gordon-Levitt, Channing Tatum. Bref, ce que je note, c'est que c'est que des beaux gosses. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre la physique, entre le physique et la voix ?
Ouais, c'est dans l'humeur, encore une fois. Hein, c'est vrai qu'il y a le physique rentre en compte. C'était Marc Lesser, hein, qui fait la voix de Joey dans Friends, qui me disait que lui, il avait longtemps une queue de cheval, et à chaque fois qu'il y avait un mec qui avait une queue de cheval à l'écran, il l'appelait, il était mort de rire. Et donc, ouais, souvent, il y a ce côté un peu physique, mais pas que. Il y a, quand aussi on sait qu'on peut assumer soit des rôles ridicules, soit le fait de changer la voix qui permet de faire son casting. Mais c'est vrai que le physique joue aussi beaucoup là-dessus, voilà, c'est propre à chacun pour faire ses choix, c'est très difficile, mais c'est sûr que oui, il y a souvent un petit truc, un petit détail dans l'acteur qu'on retrouve en commun dans les deux. Ça peut être un truc mais qui a rien à voir avec la voix, mais qui est un détail qui fait penser à telle personne et l'en fait, ah mais oui, pourquoi pas, et souvent ça peut faire pencher la bascule, c'est vrai.
Oui, on va dire le même style de jeu peut-être, ou le même type d'attitude à l'écran.
Ouais, mais même pas, ça peut carrément mettre le regard entre le... Moi, j'ai déjà eu des rôles, je crois, il y a 2 mois de ça, j'ai fait une série, et elle me dit, ouais, regarde, j'ai pensé à toi, parce que regarde, il a le même regard que toi. Ça s'est joué à ça.
Ah, c'est bon, ça.
Ouais.
Ah ouais, ça peut se jouer à ça.
Ouais.
Alors justement, vous doublez Jesse Eisenberg, l'homme qui parle plus vite que son ombre. Il parle très très vite en anglais, et ce depuis Adventureland, donc il y a quand même un petit moment. On va justement écouter un extrait.
Je dois faire quelque chose de marquant pour attirer l'attention des clubs de la fac.
Pourquoi ?
Parce qu'ils sont sélects et ludiques et qu'ils ont tendance à améliorer la vie. Les gens aiment aller sur le net se regarder sur leurs amis. Alors pourquoi on créerait pas un site qui offrirait tout ça, des amis, des photos, des profils? Je parle de prendre toute la vie sociale de l'université et de la mettre en ligne.
The Social Network, magnifique film.
Incroyable.
Ah oui, fabuleux. Ça, est-ce qu'il est difficile à doubler, Jesse Eisenberg, vu son débit? Moi, je l'ai vu en VO, ouais. Hein, le film en VF et en VO, et c'est quand même un très, très beau travail.
Ouais, c'est gentil. Bah, il est très difficile à doubler parce qu'il est, il est très précis dans son jeu. Maintenant, j'ai son mode d'emploi, ça fait tellement longtemps que je le double. J'ai plus l'habitude de savoir vers quoi il va s'accrocher, parce que du coup, à refaire une, deux, trois, quatre, cinq fois la même prise, on apprivoise les acteurs qu'on double régulièrement, de la même manière que ce qu'on disait avec les dessins animés tout à l'heure, avec les années passant. Donc, ouais, c'est évident qu'il est très dur à doubler, mais avec les années, je réfléchis de moins en moins pour le doubler, et c'est vraiment mon chouchou de ceux que je double. Lui et Andrew Garfield, mais bon, Andrew Garfield, il en fait quand même moins en doublage. Le seul problème avec Jesse Eisenberg, c'est que souvent, il aime bien tourner dans des films un peu indés, et la plupart du temps, ça tombe sur des distributeurs français qui n'ont pas trop de budget pour faire une grosse sortie, et que bah, bien souvent, c'est soit VO, soit version faite en Belgique ou dans les pays francophones. Et c'est dommage parce qu'il y a plein de films que j'ai pas fait, genre Vivarium, il n'y a pas de VF.
Oui, Vivarium qui est sorti récemment, effectivement.
Ouais, Jewish Connection a été fait en Belgique, et il y a encore d'autres qui n'ont jamais été doublés. C'est dommage parce que avec lui, je fais que les gros films qui sont pour le cinéma, mais pas ces petits films qui sont hyper intéressants et j'aimerais les faire. Et c'est dommage.
C'est trop cher ou est-ce qu'on ne fait pas appel à vous en fait parce qu'on ne pense pas à vous ou tout simplement parce qu'on a envie de faire ça à la chaîne ailleurs?
Non, parce qu'en fait, c'est pas moi qui suis trop cher ou pas, c'est le doublage en lui-même qui est cher. Donc, ouais. que moi je sois cher ou pas, la plupart du temps, c'est des doublages qui sont faits à la ligne, sauf accord spécial avec les majors, mais c'est de plus en plus difficile sur des acteurs live, pas sur des dessins animés très connus. Mmh. Non, c'est dommage. C'est en fait ce que je trouve dommage. Quand il n'y a pas de VF tout court, bah, ils n'ont pas le moyen de s'offrir un VF. Ce qui est dommage, c'est quand ils vont le faire dans une version francophone, et je dis bien francophone et pas française, hein, qui est hors de nos frontières, et que là, ils ne cherchent même pas à m'appeler pour me dire « On sait que tu le doubles, qu'on aime bien ce que tu fais dessus, est-ce qu'on peut trouver un deal dessus pour que tu le fasses ?»
Ouais.
Et là où ils sont cons, c'est que je l'aurais fait. Et là, je pense pas à Jesse Eisenberg, mais je pense à Andrew Garfield sur le Under the Silver Lake, qui a été primé à Cannes et qui a été faite, mais on dirait c'est la VF, c'est ni fait ni à faire. C'est vraiment dommage parce que s'il m'avait appelé pour faire un effort, je l'aurais fait. Parce que j'ai envie d'avoir la continuité. Et c'est même pas une question financière, c'est aussi une question du respect du public pour la continuité de la voix. Non, pour la continuité de la voix, vraiment, ouais, c'est même pas artistique, c'est vraiment pour que le spectateur qui voit ces films en VF, et ben que quand Andrew Garfield ouvre la bouche, ben que ce soit la voix qu'il a l'habitude d'entendre, parce que il va mettre une demi-heure avant d'oublier que c'est pas moi qui le fais. Il y a pas de prétention quand je dis ça, mais c'est le cas quand je vois un film et que c'est pas l'acteur qui double habituellement qui le fait, mais c'est chaud. Ça sort vraiment du film et on a du mal. Donc voilà.
On n'est pas dans le même imaginaire. On n'est pas dans la rencontre qu'on pourrait avoir avec l'acteur.
Ouais.
Alors justement, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que Jesse Eisenberg, il est très très précis dans son jeu. Il a notamment joué, bien sûr, le méchant dans Superman, Lex Luthor. Je crois que c'est une scène d'ailleurs qui a été assez compliquée pour vous à doubler, il me semble.
Ouais. Oh ouais, il y a eu des scènes très très compliquées dans Superman. Je crois que c'est le film où j'ai le plus galéré à le faire.
Pourquoi ?
Parce que même lui, bah parce que je sentais que lui aussi sortait des trucs qu'il n'avait pas l'habitude de faire. On a tous
notre zone de non-confort.
Ouais, il en est tellement sorti. Je sens tellement qu'il a été dirigé et que c'est pas ce qu'il aurait sorti de lui-même que du coup je retrouvais plus son jeu. Du coup j'étais perdu.
Le mode d'emploi n'était pas le même.
Ouais. Ah grave. Et du coup j'ai vraiment galéré. On l'a trouvé, mais j'ai dû travailler. Je sais que c'est pas le Jesse Eisenberg que je peux faire habituellement. Et même lui, il a eu du mal à le faire. Au final, il le dit en interview que c'est pas été évident ce rôle. Donc ouais, je pas évident. Et ouais, la scène quand il est sur le toit là, qu'il est en train de tirailler Superman, on a mis tellement de temps à la faire, celle-là. Tellement de temps.
Est-ce que il y a d'autres acteurs avec qui vous n'êtes pas forcément à l'aise dans le doublage et que vous faites ou que vous avez fait?
Ouais, Channing Tatum, sans hésiter.
Ah ouais. Pourquoi?
Ah ouais, parce que je sais pas ce que j'ai foutu sur sur lui. Enfin, il y avait vraiment un problème parce qu'au début, ouais, peut-être que sur le premier, c'était il avait été traduit Sexy Dance sur le premier.
Ouais.
Ça pouvait passer, encore que je me trouvais un peu jeune, mais après. Il s'est mis à aller au Club Med Gym et à Basic Fit tous les jours pendant 8 ans et c'est devenu un Golgoth. Donc, à un moment donné, quand je double Jesse Eisenberg et le film d'après, je fais Channing Tatum, ça marche plus, quoi.
Ouais, ça fait pareil, effectivement. Alors, justement, comment on fait pour doubler quand même beaucoup de voix, parce que vous en faites énormément, sans se dire ça ressemble trop à l'autre personnage? Comment on arrive quand même à trouver des teintes, des nuances, alors que quand même, globalement, ça reste votre voix?
Je pense que ça se joue à l'articulation à la manière d'appréhender le personnage. C'est sûr que l'articulation, c'est la moitié du taf, au moins. On le prend pas de la même manière, on place pas sa voix de la même manière. Et du coup, si le doublage, entre guillemets, est bien fait, de la part de la synchronisation et du jeu d'acteur qui est bien nourri et qu'on trahit pas l'image, eh ben, ça veut dire qu'on s'est adapté au personnage. Donc, du coup, pendant tout le film, on va se dire, cette voix, elle me dit quelque chose, mais je sais plus quoi. Parce que on sera avec le personnage, parce que c'est le personnage n'est pas trahi et que c'est le plus fidèle. C'est jamais aussi fidèle que la VO, mais c'est le plus fidèle possible. En tout cas, on a essayé. Et c'est là que on arrive à faire des différences parce que l'articulation est jamais la même et que moi, l'articulation que j'ai sur Jesse Eisenberg, je ne fais pas la même chose que quand je fais Adam Brody. Ou que c'est Paul Dano qui est hyper spé dans son jeu. Donc quand on s'adapte vraiment au jeu de l'acteur qu'on a en VO et qu'on ne fait pas sa propre partition, eh ben bien souvent c'est pas exactement la même chose. Alors évidemment, on peut entendre que c'est la même voix, mais la plupart des spectateurs qui sont pas des fans de doublage diront cette voix me dit quelque chose, mais je sais plus d'où. Et ça s'arrêtera là.
Ouais. Et là ça veut dire que le travail a été bien fait.
Ah ben de toute façon, un bon doublage, c'est un doublage qui s'oublie, hein. Sauf quand le doublage est à la fin du générique. Ça, c'est quand c'est vraiment oublié jusqu'au bout, ça c'est un peu plus relou, mais c'est encore un autre débat.
Alors il y a Nockbourg de la communauté Beta Série qui vous demande, le doublage de contenu pour enfants, par exemple Titeuf, est-elle différente que le doublage de contenu tout public, Spider-Man, ou pour adultes comme Viking?
Non, c'est pareil. Hein. C'est pareil, sauf le temps. C'est vrai que souvent sur les dessins animés, souvent quand c'est jeunesse et que c'est pas des produits qui sont très attendus, souvent, faut être honnête, ça va plutôt vite. Une fois que c'est bien joué et que c'est en place, c'est suite, c'est sûr. Maintenant, quand c'est des séries qui doivent être chiadées de bout en bout, là, c'est différent, mais pour des trucs jeunesse qui vont généralement ça trace, comme on dit.
Alors j'ai une dernière activité en date que j'ai vue, que j'ai relevée pour vous au cinéma, c'est directeur artistique. Ouais. Et attention, on se passe sur n'importe quoi, sur Star Wars 8 et sur Solo quand même. Hein. Alors bon, pas de bol quand même, c'est les deux films qui sont maudits dans la nouvelle saga, bon pas de bol, mais c'est pas le doublage qui en est en cause, c'est une nouvelle carrière qui s'ouvre à vous?
Pas du tout, au contraire. Ça a été un bonjour et un au revoir.
Ah oui, carrément, à ce moment-là.
Oui, et puis et c'était génial parce que j'étais hyper content de la confiance que Disney m'a offert pour diriger ces deux films. Mais là, c'est clairement une position artistique qui fait que je préfère être comédien que directeur artistique. Que quand on est comédien, on fait cette interview. Tout à l'heure, je fais Stream VF. S'il n'y avait pas le confinement, demain, je serai en studio. Après, j'irai faire Énergie. Après, j'irai chez Webedia pour tourner CTCR en direct. Après, le soir, j'irai faire une pub. Et le problème, c'est que quand on est directeur artistique, on ne fait que ça pendant 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Et que j'ai pas le temps de me consacrer exclusivement à un projet. Et en étant le plus geek du monde, comme je le suis, enfin là, j'ai mes écouteurs dans la main, c'est un R2-D2, donc voilà, je suis un fan. Mais j'ai pas le temps. Aujourd'hui, quand j'ai fait le 8 et solo, je faisais pas toutes les activités de stream, d'animateur, pour ES1, pour autant de doublage, j'en avais moins. Aujourd'hui, je peux pas faire ça. Et à regret, hein, mais et franchement, j'ai pas de plaisir à diriger les comédiens. Parce que...
Ah bon? Pourquoi?
Ouais, bah parce que quand ils sont excellents, ils comprennent tout, et donc du coup, il y a juste à dire trop court, trop long. Mmh. Et quand ils ont du mal, c'est gênant pour moi de devoir expliquer la situation parce que je veux pas être condescendant, je veux pas paraître prétentieux, je veux pas lui expliquer, lui donner l'intention, lui dire rien de moi, je l'aurais fait comme ça. Ça, je supporte pas quand on me le fait en comédien. Donc, je veux pas l'imposer en tant que DA. Et donc, du coup, de trouver des paraphrases toute la journée pour expliquer comment arriver à la lettre P en passant de la lettre A et de pas lui faire B, C, D, E, F, G, H, enfin, tu vois, jusqu'à
la lettre
P. Et ben, de faire toutes ces paraphrases pour pas blesser son ego de comédien, parce que l'ego de comédien, on en a tous, c'est fatigant et c'est pas mon délire. Et il y en a pour qui c'est un kiff, et j'ai grand respect pour ça, parce que sinon on sera en galère, mais c'est pas mon kiff, et tant que j'ai du taf en comédien, je préfère faire ça. Mais j'ai été extrêmement heureux de pouvoir dire, j'ai dirigé Star Wars, et surtout j'ai fait partie des 50 premiers qui ont vu Star Wars avant tout le monde avec Rian Johnson qui est venu m'expliquer son film après l'avoir vu, et ça, c'est rien que ça, ça vaut tout l'or du monde, et j'en suis hyper heureux d'avoir pu vivre un Star Wars en ultra privilégié comme ça. C'est juste monumental, et ça, pour un fan et pour un geek qu'on est, c'est quand même un truc de malade. Je me rappelle que franchement, quand c'est sorti, quand on a visionné le film et que ça a fait et là, mais j'ai les poils qui sont dressés, je fais mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'était un délire. Ah, c'était ouf.
Ah, j'aurais voulu être là. Waouh. Donald, on se retrouve dans quelques instants dans la troisième et dernière partie de cette émission, et on va parler jeux vidéo.
Tu vois qui c'est? Présenté par Damien Douani sur Beta Série La Radio.
Donald Renew, nous sommes ensemble sur ce quatrième épisode de Tu vois qui c'est, et on le sait, vous l'avez dit il y a quelques instants, dans la fin de cette deuxième partie, vous êtes un touche-à-tout, et vous adorez aussi le sport d'action, la compétition, vous êtes un fondu de jeux vidéo. D'ailleurs, vous avez un petit pseudo qui s'appelle Donatello, ça n'a rien à voir avec les Tortues Ninja. Non. Il vient d'où d'ailleurs ce pseudo?
Bah, en colonie de vacances, il fallait trouver un pseudo pour faire une activité, et comme mon prénom c'est Donald, j'aime bien l'Italie, bah, j'ai fait Donatello. Et voilà, gaz. Et j'ai jamais changé.
Et hop, c'est fini. Donc, ce qui veut dire que maintenant, il faut s'inscrire à tous les sites possibles et imaginables avec ce pseudo avant qu'il ne soit pris.
Ah bah toujours, allez, c'est compliqué. Hein. Et donc j'ai deux, trois techniques pour arriver à trouver un truc qui n'est pas trop loin sans tomber dans Donatello 21-12. Mais bon, j'arrive à trouver mes techniques.
Alors, Donatello, c'est votre pseudo de scène pour, par exemple, le stunt, le jeu vidéo, la cascade à moto, donc le stunt. Il se trouve aussi que, ce qui est assez amusant, c'est que dans Martin Mystère, donc il y a un dessin animé que vous avez doublé, Martin est joué par Alexis Thomasian, qui est un de vos amis d'ailleurs, avec qui vous avez fait de la cascade à moto. Il double d'ailleurs Fry dans Futurama. Est-ce que ça change quelque chose, en termes de doublage, de doubler avec son pote? Est-ce que la complicité, ça s'entend à l'oreille?
Ouais, mais c'est surtout les DA qui pètent un plomb parce qu'on n'est jamais concentré toute la journée et ils en peuvent plus, quoi. Donc à la fin, ils nous séparent et ils nous font enregistrer séparément, comme c'est sans tranquille.
Genre comme à l'école. Bon, toi, ça suffit maintenant. Vous vous séparez. Ah, bah, toi, grave, dans ton coin. Ah ouais.
Ah, mais il y a des, en fait, dans les studios, on a des sortes de cabanes avec des grands rideaux pour étouffer le son, pour avoir un son mat, comme quand on est en extérieur. Mais on en a fait tomber quelques-unes, hein, dans les studios.
Mais pour autant, j'imagine quand même que un bon doublage, c'est comme quand on a des acteurs, on sent qu'il y a une complicité entre eux, il y a quelque chose qui se dégage. J'imagine que ça doit s'entendre quand même quelque part.
Bien sûr, non, mais bien sûr, ça s'entend. Mais quand c'est du Martin Mystère ou Futurama, ça va. Oui. Quand on fait un Scorsese, ce sera un peu plus compliqué.
C'est une autre histoire, effectivement. Le dessin animé peut-être permet plus de liberté, ou le jeu vidéo justement, parce que de la compétition au jeu vidéo, il n'y a qu'un pas qui est tout minuscule, et vous animez notamment plusieurs émissions sur Twitch, notamment pour jeuxvideo.com, sur ES1, vous faites Stream VF, donc justement de la Team VF, qui permet de découvrir des comédiens qui font du doublage et qui font la VF de jeu et qui jouent avec vous. C'est super sympa, donc allez regarder, pour ceux qui écoutent cette émission, allez voir Stream VF, c'est vraiment très très sympa, et puis comme ça vous allez voir les visages de certains doubleurs que vous connaissez. Est-ce que c'est une autre activité de comédien que d'animer des émissions?
Ah, mais moi, je suis pas animateur. Hein. Je suis comédien qui joue le rôle d'un animateur. Hein. Mmh. Je ne suis jamais animateur. Hein. C'est-à-dire que là, si on échangeait les rôles et que je me mettais à poser des questions, je serais pas journaliste. Je serais comédien qui fait le rôle de journaliste. C'est rentré en moi. C'est véritablement, à part quand je pilote, où là, je suis vraiment pilote, mais sinon, tout le reste, je suis comédien qui fait le rôle de... C'est rentré comme une seconde nature. Donc, j'adore. Hein. C'est vrai que... ES1 c'est pour de la télé, on est sur des vrais beaux plateaux avec les éclairages, la régie, l'oreillette, tourner dans les conditions du direct, c'est grisant, il y a le petit coup d'adrénaline quand j'ai le réalisateur dans l'oreillette qui me fait le décompte et puis que on est parti, que pendant l'interview il me raconte une énorme connerie pour me faire rigoler, c'est génial, c'est trop cool. Et puis les streams j'adore parce que c'est du direct et voilà, quand on se lance, qu'on va partir pour 2 heures d'émission, moi je dis toujours à mes invités, vous le verrez jamais parce que sur les émissions ça se voit pas, mais juste avant, pendant le décompte, je dis à tout à l'heure. Et ils comprennent très bien que le à tout à l'heure, c'est la dernière fois que je suis entre guillemets moi-même avant que la fin de l'émission, parce que pendant tout le reste du temps, je vais être dans mon rôle. Mmh. Et ouais, c'est hyper intéressant et j'adore. C'est une vraie découverte pour moi le stream. Alors. Là maintenant, je suis équipé à la maison pour pouvoir faire mes streams VF à la maison. J'ai essayé de streamer normalement. J'ai joué à Assassin's Creed notamment.
Ouais.
Et je suis tellement mauvais quand je discute avec les gens que je crois que je serai jamais un vrai streamer à pouvoir faire des vraies belles actions en même temps que je discute.
Ah, c'est un vrai exercice.
Je suis capable de faire ça.
C'est un vrai exercice.
Ouais.
Alors, il y a un jeu vidéo, donc bien sûr, vous faites donc des voix, vous y jouez, vous aimez, et justement, dans une des voix que vous faites, c'est Spider-Man, puisque Spider-Man, ouais. Vous l'avez doublé au cinéma, et vous le doublez aussi en jeu vidéo. C'est amusant, ça, comme continuité, d'ailleurs, ça rappelle un peu ce qu'on disait tout à l'heure, ce Andy, entre Andy de Toy Story 1 et les spectacles de Disney on Ice, on retrouve une continuité ?
Ouais, carrément, et puis là, moi, quand j'avais vu l'annonce à Feu le 3... qu'ils allaient sortir un Spider-Man sur PS4, j'ai reçu 12 000 SMS, des tweets à n'en plus finir en disant il faut absolument que tu le fasses. Et j'ai quand même dû passer par la case casting. Hein.
Est-ce que c'est vous qui avez démarché en disant je veux absolument le faire et vous avez fait un casting ou on est venu vous chercher ?
Non, on m'a contacté pour faire le casting avec le directeur artistique, mais je savais très bien dans quelle boîte ça allait tomber. Je savais très bien à un ou deux dés après qui allait s'en charger et que j'allais forcément être sur les rangs. Donc évidemment que je leur ai parlé, je fais quand ça arrive, faut absolument que je le fasse. Donc j'ai passé le casting, mais alors je les ai fait chier pendant le casting, j'ai refait les phrases 20 fois jusqu'à avoir la phrase parfaite et l'essai était hyper long. En même temps, j'ai passé des mois en studio, donc forcément, ils n'allaient pas me mettre un essai de 15 minutes. Mais j'avais beaucoup d'essais dans tous les sens, des moments où ils pleuraient, des moments où ils gueulaient, des moments où ils rigolaient, des moments où ils faisaient des blagues, pour être sûr que je sois capable de tout assumer. Et clairement, j'ai fait un bon essai, le DA m'a bien recommandé, et je leur remercie encore à Jean-Philippe. Mais c'était honnête, enfin il n'y a pas eu de piston, c'est que j'avais déjà fait le rôle, j'avais vraiment envie de faire le rôle, donc on a tout fait pour que, enfin j'ai fait tout pour que ça arrive. Lui n'a pas pu faire autre chose que présenter mon travail avec les autres.
Bien sûr.
Mais je sais que on a vraiment chiadé l'essai qu'on a présenté pour moi et ça c'est cool. Je crois que j'aurais vraiment eu du mal à encaisser le fait de ne pas faire ce Spider-Man sur PS4, ça aurait été vraiment dur.
Alors justement, dans le jeu, il y a un passage où Spider-Man se prend pour un inspecteur, l'inspecteur Spider-Man, et c'est un passage assez amusant parce que vous allez partir quasiment en impro. Alors justement, on va écouter la version originale d'abord US.
The odds were long, the danger close. But between Spider-Cop's reckless intuition and the Chief's determined planning, they got the job done.
Aw, that's kind of sweet.
A pairing of opposites, like peanut butter and chocolate. Or breakfast for dinner. The two work together.
And we're done. Talk to you later, Spider-Cop.
She's coming around, right? Yeah, definitely.
Ça, c'était la VO. Maintenant, on va entendre...
La version Inspector Spider.
Et voilà, maintenant, on va écouter l'AVF.
Leur chance était mince, le danger omniprésent. Mais avec l'intuition infaillible de l'Inspecteur Spider, et la détermination de la capitaine, rien ne pouvait leur résister.
Oh, c'était assez touchant.
Une drôle de combinaison. Mais comme le beurre et la confiture, ou un petit déj à 20h, Ils allaient bien ensemble.
Je vais raccrocher. À plus, inspecteur Speeder.
Elle est de moins en moins coincée, non? Ouais, carrément.
Mais ça sort d'où, ça, Speedy qui se prend pour Rambo?
En fait, au début, je l'ai fait comme lui. Ouais. Et au bout d'un moment de l'enregistrement, je suis un peu tombé là-dessus en voyant. Et je me suis dit, mais attends, mais ça va revenir tout le temps, ce truc-là. Et j'ai dit, vas-y, viens, on s'amuse et on assume, on va jusqu'au bout de la connerie. Et je le fais en mode Rambo, en mode surtout nanar, parce que voilà, j'en fais des caisses. Et c'était drôle parce que voilà, on s'est amusé, mais on s'est pas foutu de la gueule du personnage. On lui a pas fait de mal. On s'est amusé avec. On ne s'est pas amusé de lui. Et ouais. La différence, elle est énorme. Ce qui fait que toute la VF, elle est. Il y a plein de
jokes. Oui, il y a plein de petites blagues. Il y a plein de trucs comme partout. Ça. Je crois qu'il y a des références aux bons et mauvais chasseurs des inconnus. Il y a plein de trucs comme ça qui se baladent. Ouais, ouais.
Ouais, mais. Il y en a beaucoup qui ont été faites par l'adaptateur, qui a eu la liberté de le faire. Et ça, déjà, ça... En fait, c'est en voyant la liberté qu'a eu l'adaptateur, j'ai fait « Oh la vache !» Mais on peut aller super loin sur ce truc-là, parce que pour qu'il puisse faire des références à Chuck Norris, et faire des références au Tonton Flingueur, et alors qu'on est dans Spidey, en plein New York, je me suis dit « Ok, bah, ça veut dire qu'on a une liberté. » Et en voyant cette liberté, moi, j'ai amené ma liberté avec les trucs aux inconnus qui sont tous de moi. Mais le travail qu'a pu faire Robinson et son équipe sur l'adaptation de ce jeu, qui est énorme au niveau des lignes qui ont été faites, et ben voilà, Sony et Insomniac ont vraiment laissé une liberté. Ils ont tout vérifié, ils ont tout approuvé, on n'a rien refait quasiment. En tout cas, jamais sur des conneries. Et voilà, je pense que... Là où ça aurait pu être un point faible en disant ils sont allés beaucoup trop loin, c'est de la merde, et bien finalement c'est devenu une force. Parce que voilà, c'était respectueux. Mais c'était localisé, c'est-à-dire que c'est des blagues où c'est pour la France. Si on avait fait des blagues qui étaient avec les références américaines, personne ne les aurait comprises. Et donc c'est là que c'est intéressant.
Mais c'est assez rare ça quand même que des distributeurs ou des producteurs laissent comme ça de la liberté de trouver de trouver des choses qui sont vraiment très localisées.
Mais quand on fait un accent pour une série, pour une chaîne hertzienne, ça revient du client avec un mail avec 4 points d'exclamation. Alors, c'est clair. Donc, non, c'est évident. C'est très rare dans nos années de pouvoir avoir une liberté pareille. Et alors, sur un truc comme Spider-Man, mais jamais on aurait pu le parier. Jamais. Moi, on me l'aurait dit ça, j'aurais pensé le contraire.
Mais est-ce que justement, quand même, le jeu vidéo ne permet pas peut-être plus de liberté en VO et VF que ne le permettrait un film ou une série?
Bah, de moins en moins, les enjeux sont trop importants. Aujourd'hui, les jeux vidéo font plus d'argent que le cinéma. Donc c'était le cas avant, c'est plus le cas maintenant. Hein. Mais maintenant, quand ça le fait, c'est une vraie volonté. Mais c'est quand il y a une volonté de proposer sa patte. Et là, je pense à Ubisoft. Et à Julien Bardakoff et toutes ces équipes qui ont fait des VF incroyables sur Assassin's Creed Odyssey. Il y a quand même un clin d'œil avec je crois que c'est Nicolaos avec Phoebe, et c'est les voix, c'est père et fille, et ils ont mis qui? Et ben ils ont mis ceux qui ont fait Kratos et Atreus dans God of War. À un moment donné, t'as une petite fille qui, j'ai voulu l'enregistrer mais je suis arrivé trop tard pour faire un clip, et t'as une petite fille sur une île grecque au temps, donc du coup il y a quelques milliers d'années, qui chante le générique de Motus. mais c'est génial c'est trop cool, et ça fait pas de mal ça fait pas de mal, c'est un petit clin d'œil, ça fait rigoler, mais
oui, c'est un easter egg, c'est vraiment un easter egg. Voilà. Ouais, tout à fait. Alors justement, vous parliez d'Ubisoft et de doublage. Est-ce que, et du fait aussi qu'aujourd'hui il y a certains jeux qui font plus d'argent que certains films de cinéma, ouais. Est-ce que tout ça, ça tire par le haut justement les budgets et notamment au global l'argent qui est mis dans le doublage?
Non. Et ça c'est assez dramatique. Mais c'est pour ça que il y a beaucoup de comédiens que je ne pourrais jamais recevoir dans Stream VF parce qu'ils veulent pas faire de jeux vidéo parce que leur rapport temps passé et lignes enregistrées par rapport au cachet, il est beaucoup moins important qu'en doublage. Et déjà en doublage, quand on a fini un film, on ne va pas s'acheter une voiture, hein, clairement. Donc, tu vois, c'est ça qu'il y a à voir. Alors effectivement, on gagne bien notre vie en travaillant tous les jours, mais demain, s'il n'y a pas un accord avec le distributeur, on ne va pas s'acheter une voiture, hein. Donc c'est vraiment un truc où le doublage est toujours au tarif syndical, donc c'est 5 euros la ligne. Donc c'est ça, et si c'était ça en jeu vidéo, mais ce serait monumental, parce que alors là, être payé à la ligne sur un jeu vidéo, ça, on ferait des fortunes. Et comme c'est au forfait et plutôt pas trop cher, bah, y a plein de comédiens qui veulent pas en faire. Après, on peut toujours négocier un peu, mais c'est pas évident. Et c'est, en fait, c'est un vrai effort physique, un jeu vidéo. Un jeu vidéo, c'est pour ça aussi, c'est parce que on enregistre une phrase. Si elle est bonne, on écoute la VO, elle passe 3 secondes après, parce que c'est avec un clic. C'est pas comme un film où c'est la scène qui passe, donc on a le temps de se reposer. Là, c'est un clic. La scène est pas, la réplique, elle passe, on y retourne direct. C'est vraiment, tout est enregistré pour qu'à la fin de la VO, pouf, c'est automatique, ça part en enregistrement sur le fichier derrière. Donc du coup, il n'y a jamais de pause. Donc c'est un truc physique qui est vraiment compliqué, qui est vraiment long. Donc, les budgets, ils sont pas ouf. Et je sais que les syndicats veulent se battre un peu pour que justement ça revienne un petit peu à la hausse, parce que avec les millions de ventes que font certains softs, il pourrait y avoir un petit peu plus de budget là-dessus, mais est-ce que ça bougera, j'en suis pas sûr.
Alors sur la mécanique, on va dire, d'enregistrement, donc c'est pas comme avoir une bande rythmo avec le film au-dessus et puis ça passe en dessous et puis on double. Là, on est plus dans une mécanique un peu, j'appellerais, fichier Excel, avec les phrases que l'on enregistre les unes après les autres. Est-ce que c'est compliqué d'être dans l'émotion d'un jeu ?
C'est très dur. On n'a rien pour s'accrocher. Il y a le fichier Excel avec parfois une case, c'est la case G. Voilà, pour dire, c'est vraiment n'importe quoi. Il y a une case qui dit il n'est pas content. Et il vient de se reposer après la dernière baston. Voilà. Et ça, c'est au mieux. Alors normalement, c'est deux mots, c'est fatigué ou triste. Il n'y a rien d'autre. On ne sait pas ce qui se passe à l'image, on ne sait rien d'autre. Donc là, c'est où on est joueur et on sait où on est, et puis on arrive à trouver des points d'accroche et puis ça passe. Ou le DA a intérêt à être très bon, parce que sinon, il est à côté de la plaque complète. Et il y a même des fois où tu es à côté de la plaque complète parce que tu ne peux pas prévoir ce qui se passe et que on peut pas inventer les situations qu'on ne peut vraiment pas imaginer. Et parfois, on n'a rien. Je me rappelle quand je faisais Disney Infinity, parce que j'étais joueur, j'avais compris qu'on allait avoir une plateforme à la Skylanders. Tout le reste de l'équipe, peut-être chez Disney, eux, ils connaissaient, mais l'équipe qui faisait le doublage, ils n'avaient pas compris que c'était une plateforme qui allait permettre d'avoir des jouets en physique, parce que comme personne n'expliquait, tout était sous secret et qu'on n'avait pas d'image, on ne pouvait pas l'imaginer. Mais moi, à force de faire des fichiers, je commence à comprendre ce qu'on fait. Et c'est ça, en fait. On ne comprend pas forcément ce qu'on fait. Adrien Antoine, sur Assassin's Creed Odyssey, il l'a dit dans Stream VF, c'est au bout de quelques jours qu'ils lui ont dit qu'il travaillait sur Assassin's Creed. Quelques jours. Ouais, ouais.
Quelques jours. Donc, au début, il débitait des phrases, et puis au bout d'un moment, il a compris qu'elle était.
Non, on lui a dit. On lui a dit au début, il avait vraiment rien dit. C'est-à-dire qu'il savait vraiment pas où il était, quoi. C'est très difficile, le jeu à faire. Très difficile. C'est pour ça que ça mériterait une réévaluation. Mais est-ce que ça sera? Je ne sais pas.
Alors, on a dit tout à l'heure, en fin de deuxième partie, que vous aviez essayé de faire de la direction artistique de films, Star Wars 8 et Solo. Dans le jeu vidéo, il y a tout ce qui est motion capture, qui est assez intéressant. Ouais. Est-ce que ça vous dirait un jour de tester ça?
Ouais, là, clairement. Si Quantic Dream, ils veulent faire un clin d'œil et que je fasse un petit rôle dans leur prochaine production, ce serait tellement un kiff. Faire un truc de motion capture, mais ce serait énorme. Alors, faire le truc en motion capture et après le redoubler, mais ce serait le pack complet. Ce serait génial. Mais ouais, ça me ferait vraiment kiffer. Hein, tourner un truc en mocap, mais grave.
Dites-moi, Donald, pour finir sur la partie jeux vidéo, est-ce qu'on pourrait dire de vous que vous êtes le Troy Baker français?
J'aime bien la comparaison, elle est géniale, on me l'a déjà dit, je trouve ça hyper gratifiant. Mm-hmm. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a Troy Baker et Nolan North qui font vraiment plein de gros trucs, donc c'est pas le pire des compliments, donc je peux rien dire d'autre que merci, je prends.
Donald, on va finir cette émission. J'ai 5 questions à vous poser. Je vais vous demander d'y répondre de la manière la plus spontanée et rapide possible. Attention, c'est parti. Le doublage que vous remerciez tous les matins d'avoir pu faire.
Titeuf.
Le doublage que vous regrettez d'avoir fait.
J'en ai pas.
Le doublage le plus endurant que vous ayez eu à faire.
Le silence de Martin Scorsese.
Le doublage que vous refuseriez et que vous avez refusé de faire.
J'ai refusé de doubler Miller et Timberlake parce que c'est pas moi qui les doublais, c'était Gauthier Batou et Alexis Thomasson, et par fidélité je ne les ai pas fait.
Et enfin, le doublage que vous rêveriez faire?
Continuer Spider-Man. C'est une revendication.
Parfait, merci beaucoup Donald. Alors Donald, c'est fini. Franchement, je pense qu'on a encore plein de choses à se raconter, ouais. Mais on va s'arrêter là, bah oui, parce que tout a une fin oui. Pour cet épisode-là. Moi, j'ai une question. Est-ce que si je demandais à Titeuf de m'annoncer la fin de cette émission, justement, il le ferait comment?
Bon, Titeuf, il dit que c'était une bonne interview et qu'il faut continuer à faire J'étais méchant parce que je n'ai pas une mesure de pédoncule. Alors, tchao le nage.
Merci beaucoup Donald Renew, c'était Tu vois qui c'est sur Beta Série La Radio. Donc un immense merci à vous Donald de nous avoir rejoints dans cette période de confinement pour cette nouvelle émission. Si vous avez envie de réécouter cette émission, elle est disponible en podcast sur l'application mobile Beta Série et sur toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion. À la réalisation et qui m'a aidé à travailler justement sur le contenu de cette émission, mon complice Anthony. Bonjour chez vous.
Merci.